Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable. Autour de la table avec moi, Bastien Antoine, Eric Figuère, Eric Savignac, Bruno Salvé. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois à l'actualité. Vous le savez, bien évidemment, la Coupe du Monde en ce moment, mais il y a aussi du rugby. Alors, un programme riche et varié ce soir, parce qu'on reviendra aussi, si on a le temps, sur les différentes actualités sportives du week-end, le reste de l'actualité, puisqu'il y avait de la Formule 1, du tennis, du cyclisme aussi. Mais on va commencer avec le football, la Coupe du Monde et les matchs couperets qui ont débuté ce matin. La première phase, la phase de poule, est terminée. Place à la phase à élimination directe avec le premier 16e de finale qui opposait l'Afrique du Sud au Canada. Je me tourne à ma droite, puisqu'il y a les footballeurs à ma droite sur le plateau, mais les rugbymen à ma gauche, vous le verrez si vous regardez sur notre site internet la photo à la fin de l'émission. Eric Figuère, pardon, pour ce premier match Afrique du Sud-Canada, c'était long.
C'était long, début des matchs à élimination directe, et donc, comme très souvent, début des matchs un peu soporifiques, où évidemment, c'est une lapalissade que de dire ça, mais personne n'a envie de perdre, puisqu'il y a élimination à la clé. Et donc, un match soporifique entre deux équipes qui ne nous ont pas proposé grand-chose. Alors, bien sûr qu'il y a eu quelques actions de part et d'autre, mais ça a été un match assez pauvre, je trouve, assez triste. Le Canada l'emporte dans les dernières minutes, dans les arrêts de jeu. C'est un des pays hôtes. Bon, c'est bien pour la compétition. Tant pis pour l'Afrique du Sud, c'est dommage pour elle. Mais voilà, quand on présente aussi peu, voilà, il est, en général, on arrive à passer à côté, quoi. C'est ce qui s'est passé ce matin.
L'Afrique du Sud qui fait partie des 9 des 10 équipes africaines qualifiées pour ces 16e de finale, c'est quand même un chiffre important, hein, quand
oui,
on voit le nombre d'équipes européennes, sud-américaines.
Une belle stat. On savait que l'augmentation de 32 à 48 équipes avait été faite aussi pour satisfaire au continent africain. Et on sait pourquoi, hein, c'est un apport de voix dans les futures élections qui ont lieu régulièrement. Et puis c'était aussi pour récompenser le football africain qui est tout sauf un faire-valoir, donc c'était une très bonne chose. Et ils sont récompensés puisqu'ils ont clairement montré leur niveau. Bon, sur ce match-là, c'était trop peu, mais sur l'ensemble de la compétition, 9 sur 10. Avec une pitoyable équipe tunisienne, mais pour les neuf qui se sont qualifiés, ils ont proposé quand même pendant ces éliminatoires du beau jeu, donc bravo à eux.
Avec des équipes qui pourraient se qualifier, si c'est pour en citer qu'une ou deux, mais l'Égypte qui affronte l'Australie, le Congo contre l'Angleterre, il y aura aussi un très beau Côte d'Ivoire-Norvège et Maroc, effectivement le Maroc qualifié. Également, il y a aussi l'Algérie face à la Suisse. On reviendra sur les différents 16e de finale de cette Coupe du Monde. Avant ça, petit retour sur les phases de poule. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ces nombreuses équipes? On en parle depuis des semaines, des mois déjà. Trop d'équipes, pas assez. Il y avait eu des matchs serrés, d'autres avec des scores bien plus larges. Bastien, qu'est-ce qu'on en retient de ces phases de poule?
Ben moi, finalement, plutôt du positif, parce que je m'y suis un petit peu intéressé. Et puis, apparemment, enfin, je regardais, il y a eu en moyenne 3 buts par match dans cette compétition. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que les trois premiers, quasiment les trois premiers de chaque poule sortent pour les 16e de finale. Du coup, peut-être que les équipes ont un tout petit peu moins calculé. On le voit aujourd'hui, tout d'un coup, match couperé, on essaie plutôt de défendre et de marquer un but quelque part. Donc, ça faisait trois buts par match. C'est une moyenne qui est plus importante que les 9 dernières coupes du monde, en fait. Donc, ça veut dire que globalement, il y a plein de petites choses qui apportent leurs fruits. Il y a le fait que ben voilà, qu'il y ait un peu plus de place pour les 16e de finale, peut-être aussi l'arbitrage qui aujourd'hui empêche peut-être les défenses de tricher, des choses comme ça.
De gagner du temps également, voilà, on le voit, hein, les joueurs qui se relèvent beaucoup plus facilement qu'il y a quelques semaines encore.
Après avoir simulé comme la plupart.
Et du coup, ça a quand même fait finalement une première partie de compétition qui a été vivante avec à chaque match beaucoup de buts, très très peu de 0-0 ou de 1-0. Donc jusqu'à
oui,
présent.
Sur les 72 matchs, il y a eu seulement 5-0-0. C'est très faible, j'imagine, par rapport aux autres Coupes du Monde, j'ai pas la comparaison, mais quand on regarde les rencontres, il y a des 5-0, mais il y a aussi des 3 partout, des 4-1, des 3-2. C'était ouvert et ça a permis à de nombreuses équipes aussi de se révéler. On voit des qualifiés comme le Cap Vert qu'on n'attendait pas forcément là et d'autres comme l'Uruguay qui ne passent pas les poules. Ça a permis à tout le monde de jouer, de se rencontrer, d'élever son niveau aussi.
Je suis entièrement d'accord. Je pensais que cette augmentation du nombre des équipes allait faire baisser le niveau. Et puis en fin de compte, on a eu un premier tour plutôt sympa, avec, comme tu l'as dit, beaucoup de buts, assez vivant, à part deux ou trois matchs, je ne parle pas des matchs nuls, parce qu'il y a des beaux matchs nuls, hein, où il se passe pas mal de choses. Il y a eu, comme on dit vulgairement, une ou deux purges, j'allais deux peut-être maximum, j'ai plus les matchs en tête, mais finalement assez peu vu le grand nombre de matchs qui ont été joués.
C'était le Paraguay-Australie.
Par exemple, voilà, c'était non, mais pour l'ensemble c'était vraiment sympa. Je pense que tu as tout à fait raison. Le fait que le troisième quasiment soit qualifié avec 4 points et pour certains avec 3 points, bah, ça leur a permis de se lâcher un petit peu plus, de jouer beaucoup plus et puis de nous proposer un beau spectacle. Alors j'espère qu'à part ce match de ce matin, on en aura encore du spectacle. Sans aucun doute déjà à partir de demain matin, puisqu'à 4h on a parlé d'un Brésil-Japon. Donc je pense que déjà ça va jouer un petit peu, ça va être un peu plus sympa.
Je vais me tourner vers vous, ami rugbyman. Est-ce qu'on a suivi un peu cette phase de poule, Eric Savignac, Bruno Salvé, ces premiers matchs, forcément, même si c'est pas du rugby, on reste un peu attentif à ce qui se passe?
Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé, on en revenait à l'arbitrage. Nous, on est surtout sur un sport de contact et je trouve que justement, les arbitres sont beaucoup plus tolérants par rapport aux coups d'épaule et aux contacts et ils sifflent beaucoup moins les fautes qu'auparavant. Avant, à peine un joueur se faisait frôler, bousculer un petit coup d'épaule, c'était sifflé. Et là, les arbitres laissent énormément jouer. Donc, il y a un peu cet engagement physique que j'aime dans le football anglais aussi, quand je regarde la première ligue anglaise. Et je pense que c'est des consignes des arbitres. Ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins d'arrêts de jeu aussi, lié au fait que l'arbitre laisse jouer. Donc, oui, c'est assez agréable à regarder. Maintenant, on espère que, comme vous le disiez, que les matchs couperaient maintenant ne vont pas annihiler l'allant de ces équipes et se retrancher tous en défense, alors qu'on a vu de beaux matchs avec de belles offensives, notamment au niveau de la plupart des équipes.
Eric Savignac, même question, on est d'accord sur cet avis partagé autour de la table?
Sur l'arbitrage, je crois que ça a fait l'unanimité de la part même des commentateurs ou des footballeurs eux-mêmes, qui disent quoi là, il y a plus de... Il y a plus de contact, plus de vivacité, il y a plus d'engagement. Après, ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de clubs. Alors quand on est supporter du Cap-Vert, on est content qu'il soit qualifié, mais c'est vrai qu'on va attendre quand même les huitièmes pour que personnellement ça devienne un peu plus tendu. On voit même là, sur certains écarts, sur certaines rencontres, des équipes qui n'ont pas forcément mis tout dans la bataille. On reste quand même un petit peu sur la réserve.
Et c'est ce qu'on disait, oui, autour de la table.
Ne serait-ce que pour la Norvège.
Voilà,
ça ne reflète pas. Et attention, je crois que ce matin, il y a eu un discours de Deschamps revenu... en disant que là, voilà, il fallait peut-être un petit peu se réveiller parce qu'on...
C'est une nouvelle compétition qui démarre, voilà, exactement.
C'est ce qu'il a dit avec... on l'a entendu sur vos antennes, que c'est une nouvelle compétition, élimination directe, donc il va falloir un petit peu plus d'engagement.
Justement, l'équipe de France, on va y venir, on a encore un peu de temps avant de voir la composition, même si des changements sont peut-être déjà annoncés, en défense Lucadine, peut-être en attaque Bradley Barcola. Les Bleus qui joueront mercredi matin à 8h. Mais avant ça, les trois rencontres de demain. On va commencer avec un très beau Brésil-Japon à 4h. Il faudra se lever tôt, mais c'est peut-être la rencontre du jour. Suivi à 7h30 d'Allemagne-Paraguay et à midi de Pays-Bas-Maroc. Là aussi, une rencontre qui promet entre les Hollandais et les Marocains. Débutons avec ce Brésil-Japon. Eric Figuer, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette
le Brésil bataille? Le Brésil aurait tout intérêt de se méfier parce que les Japonais jouent bien, les Japonais vont vite. Ils ont un petit peu du mal à finir leur partie, mais ils sont très dangereux, ils proposent un beau football. Et le Brésil n'est plus, alors depuis bien longtemps maintenant, hein, ça fait plus de 20 ans qu'ils ne sont plus le grand Brésil, mais ils ont quand même une équipe solide avec 2-3 joueurs dangereux, enfin, surtout Vinicius hein, principalement, c'est lui qui crée toutes les différences. Évidemment que si le Brésil joue à son niveau, ils remporteront la mise. Mais ça risque de faire un match. Je pense que le match va être assez animé.
Ouais, Bastien Antoine, même avis sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut penser? Parce que les Japonais sont tout de même les derniers représentants asiatiques encore en lice. Alors, les Australiens font partie de la Confédération asiatique de football. Mais c'est réellement le dernier représentant asiatique, les Japonais. Est-ce
qu'ils créeront peut-être la surprise, mais le Brésil est quand même très... Moi, je les ai trouvés très costauds. Hein. avec quand même une défense centrale en défense centrale au Brésil, deux joueurs qui étaient en finale de Ligue des Champions. Donc il y a des milieux défensifs qui sont très bons aussi, Vinicius qui est bon aussi devant. Donc j'ai pas forcément trop d'inquiétude pour le Brésil. Après, on peut toujours avoir des surprises, surtout que le Japon avait bien commencé sa Coupe du Monde pour un match nul contre les Pays-Bas, et après ça, ils ont gagné contre la Tunisie, et puis ils ont fait un
match nul contre la Suède pour terminer.
Match nul contre la Suède. Alors ça, c'est un petit peu le bémol de cette Coupe du Monde, parce que vu qu'il y avait il fallait avoir 4 points pour être dans les meilleurs 3e, on a quand même eu 3 matchs où les équipes ont fait match nul et au moins s'assurer une place. Il leur fallait 4 points pour être sûr de passer.
Algérie-Autriche,
encore il y a eu 3-3, mais en tout cas je peux vous dire que Japon-Suède, un partout, ça n'a pas beaucoup joué, hein. Donc ils ont joué une sorte de mi-match lors du dernier match d'avant. Bon, ils gagnent contre la Tunisie, mais c'est pas, donc je sais pas encore ce que vaut trop le Japon. On va voir.
Mais sans grande confiance pour ces Japonais face aux Brésiliens qui partent largement favoris,
oui,
on est d'accord avec Figuer.
Monsieur, oui.
Autre rencontre de la matinée, donc Allemagne-Paraguay, là aussi, cette rencontre semble quand même assez déséquilibrée avant d'être jouée. Les Allemands qui ont, voilà, on connaît les Allemands, les Paraguayens en face qui sont pas du tout au niveau, qui sont passés in extremis avec des défaites lors de la première phase. Comment on peut suivre cette rencontre pour les Paraguayens? Comment ça peut se passer pour eux? 4-1 contre les États-Unis, ils gagnent 1-0 contre la Turquie, ils font match nul contre l'Australie, là c'est l'Allemagne en face.
Moi personnellement, je pense que l'Allemagne c'est une des meilleures équipes de la Coupe du Monde, hein. Ils sortent toujours des très très bons joueurs, là ils ont un nouveau milieu de terrain, Nemcha qui est très très bon aussi, ils ont toujours plein de jeunes joueurs. Il joue très très bien. Je pense que le dernier match, j'étais étonné que le dernier match contre l'Équateur, ils remettent une équipe titulaire alors qu'il était sûr de terminer premier. Donc finalement, ils ont joué à moitié, ils se sont fait battre par l'Équateur. Mais je pense que c'est juste un accident de parcours. Je place l'Allemagne parmi les grandes favorites de la Coupe du Monde. Et malheureusement, la France, si jamais l'Allemagne et la France se qualifient, ils se croiseront en 8e, ce qui devrait faire des étincelles. Et le Paraguay, oui, ben voilà, Paraguay qui a fait match nul pour son dernier match contre l'Australie et les deux équipes qui passent. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec des équipes qui leur fallait 4 points pour être sûr d'être dans les 3 premiers. Donc non, je pense que sur ce match-là, il n'y aura pas trop de...
On pourra se reposer après le match Brésil-Japon pour enchaîner à midi avec le troisième match de la journée, c'est ce que vous dites.
C'est ça.
Je me tourne à ma gauche, Bruno Salvé, cette Allemagne, ça fait partie de vos favoris aussi.
Le seul match que j'ai vu de l'Allemagne, c'est la fin du match, la deuxième mi-temps contre l'Équateur. Donc c'est vrai qu'ils ne m'ont pas du tout impressionné, mais bon, s'ils avaient fait tourner, je ne sais pas s'ils avaient fait tourner l'effectif, mais on sentait au contraire du côté de l'Équateur cette envie de marquer avec l'entraîneur là, qui était fou sur le bord du terrain là, avec ses longs cheveux là. C'est un Argentin, je crois, d'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe d'Équateur. Il courait partout et il encourageait ses gars. Et puis bah, une belle victoire pour l'Équateur, exceptionnel. Là, c'est la première fois qu'il battait l'équipe d'Allemagne, donc dans un stade, une super ambiance. Ouais, voilà. Donc après, je pense que on n'a pas parlé de l'équipe de France encore, mais les matchs de l'équipe de France sont quand même aussi rassurants au niveau de cette équipe, avec un effectif qui est fabuleux, hein, au niveau notamment au niveau offensif.
Mais moi, je ne suis pas du tout sur cet avis-là. Mais...
Ah bon, ouais. Sur l'attaque
L'attaque de l'équipe de France, ouais, est indiscutablement la meilleure du monde et d'une dangerosité assez incroyable.
Je pense que
mais le niveau de l'équipe de France, pour moi, il... Alors, c'est un peu en trompe-l'œil, puisqu'ils marquent 10 buts, ils gagnent leurs 3 premiers matchs, oui, ce qui est quand même assez rare finalement.
Rare pour l'équipe de France.
Donc c'est quand même plutôt bien. Mais si on regarde bien les matchs et dans le jeu qui est proposé, on a de grosses faiblesses sur les côtés en défense. On se fait prendre régulièrement de vitesse. Moi, je trouve que le milieu de terrain, finalement, est un peu entre deux, pas assez fort devant et pas assez fort derrière. Je trouve qu'il leur manque un petit quelque chose. C'est pas du tout... C'est juste pendant cette Coupe du Monde-là, en tous les cas, pour ce qu'ils nous montrent jusqu'à présent, parce que ouais, c'est deux, trois joueurs très très forts quand même, malgré tout. Bien sûr qu'on a un quatuor offensif, alors surtout un trio pour l'instant, parce que sur le côté gauche, même si Barcola a fait deux bonnes entrées, Désiré Doué est quand même pour l'instant un petit peu en deçà de ce qu'il est capable de faire. Mais dans le jeu global qui est proposé par l'équipe de France, moi, je serais plutôt pas inquiet, parce que ben voilà, on a un Dembélé qui, ça y est, a retrouvé son niveau. On a Mbappé, bien évidemment, qui restera très très fort. et un Olysée exceptionnel. Donc ça peut quand même faire énormément de différence. Mais dans le jeu qui est proposé, pour aller au bout, c'est pas si fort que ça.
Il manque peut-être un vrai défi, un vrai match référence face à une équipe top niveau. Là, on a
Exactement.
Vu face au Sénégal, face à l'Irak, et puis la Norvège, une Norvège remaniée. Et
voilà, exactement. C'est peut-être mais, ce 8e de finale contre l'Allemagne. N'oublions pas qu'en la dernière Coupe du Monde, le jeu qui était proposé n'était pas si bon que ça. Je me souviens avoir passé la totalité des matchs de l'équipe de France à me dire c'est pas possible, ils vont pas gagner, c'est pas possible, ils vont pas gagner. Parce que le jeu, en fait, était fait. Alors, pour le coup, ils sont en finale et voilà. Et en 2018, c'était la même chose. Le jeu, c'est mon avis, n'était pas extraordinaire.
Il y avait effectivement des équipes avec qui proposaient un meilleur
voilà,
jeu.
Voilà. Et puis au bout, et puis finalement, ils vont au bout. Donc là, ils sont capables de refaire la même chose et on l'espère évidemment. Mais je trouve que voilà, c'est pas si encourageant que ça.
Justement, parlons-en du match de l'équipe de France qui approche à grands pas. Ce sera mercredi matin, 8h. Face à la Suède, alors la Suède qui sort d'un groupe avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Large victoire contre la Tunisie. Ensuite, une large défaite contre les Pays-Bas et puis un match nul contre le Japon. C'est Suédois, la relève de Zlatan Ibrahimovic.
Moi, j'ai regardé un petit peu la Suède et les différentes compositions de l'équipe de la Suède. Ils ont trois très bons joueurs devant. Gyökeres qui joue à Arsenal. Isaac qui joue à Liverpool mais qui a pas fait une bonne saison, et puis un joueur Elanga il me semble qui joue à Newcastle, et après ça il n'y a pas grand chose. Effectivement, ils ont très très bien commencé leur Coupe du Monde avec une très très belle victoire contre la Tunisie, puis après ils ont pris une belle raclée contre les Pays-Bas 5-1, ce qui était quand même assez important. Puis il y a ce dernier match contre le Japon où on ne sait pas trop si les équipes, il leur fallait un point pour passer, donc on ne sait pas trop vraiment quelle est la valeur de ce dernier match. Je pense que la France, si elle joue à son niveau, ne devrait pas avoir trop de mal contre la Suède. Après, par rapport au niveau de l'équipe de France, c'est sûr que c'est toujours assez problématique, parce que depuis le début de la compétition, on le dit, peut-on jouer au top niveau juste avec presque deux milieux de terrain, et est-ce que ça va suffire? Est-ce que les quatre joueurs devant vont assez défendre pour être assez consistants par rapport à les équipes contre l'Allemagne?
On voit quand même Kylian Mbappé, qui l'avait dit avant la compétition, faire les efforts. On sent qu'il y a un effort collectif, mais c'est vrai qu'un milieu terrain à deux joueurs seulement.
Quand on joue contre des équipes qui gardent tout le temps la balle, contre l'Allemagne et l'Espagne, ça commence à être difficile parce qu'on court après. Après, faire des efforts, il y a des joueurs qui savent défendre, il y a des joueurs qui ne savent pas forcément trop défendre. Aller presser le gardien, ça, tout le monde est capable de le faire. On court tout droit, on court sur le gardien. Après, défendre collectivement, défendre de manière intelligente, c'est différent. J'espère que Didier Deschamps ne sera pas obligé de changer son fusil d'épaule à la mi-temps de France-Allemagne et de nous faire entrer un milieu de terrain à la place d'un attaquant.
On est déjà sur le France-Allemagne.
On n'est pas déjà sur le France-Allemagne, mais on en parlait parce qu'on commence tous à se dire que ce sera un petit peu le révélateur finalement de cette équipe de France par rapport au niveau de l'équipe de France. On espère qu'ils vont gagner la Suède, mais je pense que ça sera contre l'Allemagne qu'on saura si c'est possible de jouer comme ça.
C'est une la palissade que de dire que si les attaquants français sont aussi efficaces qu'ils le sont depuis le début de la compétition, on peut toujours être un peu en difficulté, on finira par gagner les matchs, c'est certain, mais qu'est-ce qui se passera si on est un petit peu moins efficace ou si la défense adverse arrive à rehausser un petit peu son niveau et nous pose plus de difficultés. Donc c'est là où le jeu collectif de l'équipe de France et sa manière, comme on vient de le dire, de défendre, pourra faire la différence.
Voilà. Eric Savignac, mais sur ce France-Suède, la France est déjà passée, objectif déjà Allemagne.
Le bookmaker donne 99% de chance à la France. Je vais suivre les bookmakers, à moins qu'on mette une petite pièce sur la Suède ou éventuellement pour l'Allemagne sur le Paraguay. Mais bon, je crois que ça va être des matchs anecdotiques. Quoi. Si la France bute là contre la Suède, bon déjà, c'est...
Ce serait une catastrophe pour l'équipe de France.
Ce serait une catastrophe. Et puis après, voilà, c'est pour ça que je dis... Perso, je m'y intéresse à partir des huitièmes. Là, la Suède, je vois pas trop faire l'exploit au même titre que le Paraguay.
Et justement, si on se projette un peu plus loin...
3-0, ouais.
Oui, on voit, vous êtes déjà, je vous vois sur les téléphones en train de changer, réajuster les pronos sur les petites applications.
Ouais, ce qui peut être intéressant, c'est Pays-Bas.
Le Pays-Bas-Maroc,
j'ai bien apprécié le jeu du Pays-Bas, ça a l'air assez complet. La France, c'est... Enfin, moi, j'ai par exemple un joueur que je compare à une époque où j'étais pas très fan, c'était Luxonor
c'est vieux.
Jules Koundé, voilà, j'ai l'impression que là, au dernier match, de temps à autre, il s'est quand même fait un peu déborder.
Ouais, Luxonor était très fort derrière. Luxonor était un très bon défenseur. Ben,
pour avoir vu et suivi à l'époque où je jouais à Monaco, c'était quand même pas le meilleur joueur. Et il était un
bien
peu
sûr,
là.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que quand il décrochait pas la caravane. Mais là, c'est un peu la même chose. Koundé, sur les quelques matchs, j'ai senti un peu quelques faiblesses en termes d'accélération, de relance et de passe. Maintenant, après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu l'offensive est extraordinaire. Faut-il encore qu'ils s'entendent. Dembélé revient contre la Norvège. On va voir sur des équipes un peu plus défensives. Parce que là, ils l'ont laissé quand même un peu tricoter. On était sur une équipe B de Norvège. Oui. Je ne sais pas, c'est pas très révélateur.
Quoi. On est d'accord. Il y aura les prochains matchs, et notamment celui contre l'Allemagne, si on s'avance un peu pour juger l'état de forme de l'équipe de France. Et justement, Jules Koundé, il y a peut-être des changements. Moi, si Antoine, on a cru voir Lucas Digne revenir à l'entraînement, mais ce serait plutôt de l'autre côté.
Oui.
Donc, voilà.
Malheureusement, Didier Deschamps, pour l'instant, s'entête un petit peu avec Jules Koundé. Bon, il est quand même titulaire au FC Barcelone à ce poste-là, mais c'est sûr que à la base, c'est un joueur qui a été formé en défense centrale. Hein. Il n'y a qu'à Barcelone qui l'ont mis arrière-droit. Jusqu'à présent, il faisait à peu près le travail, mais là, c'est vrai que techniquement, c'est pas un joueur qui généralement apporte offensivement. C'est un joueur qui est un bon défenseur, et c'est vrai que même là, défensivement, on a l'impression des fois qu'il est un petit peu lent. Mais c'est difficile de changer son 11 de départ pendant la Coupe du Monde, donc je pense qu'il restera en place. Et surtout que déjà, il va probablement changer son arrière-gauche, parce que c'est Lucas Digne qui devrait jouer à la place de
Hernandez.
Voilà, Théo Hernandez. Après, ça fait un côté gauche où le latéral gauche monte beaucoup. À droite, peut-être qu'il montera un petit peu moins.
C'est, pour compenser.
Voilà,
aussi,
c'est ça, c'est un équilibre d'équipe, je pense aussi. Hein. On les met tout de suite en 4-4-2 sur le terrain, mais après, une fois sur le terrain, à l'image du Paris Saint-Germain, de ce qu'ils font, une fois qu'ils sont sur le terrain, après, les joueurs, ils ont chacun leur rôle. Bon, on verra bien Jules Koundé, j'espère qu'il ne fera pas de...
Il n'y a pas meilleur que lui, donc c'est difficile aussi de le sortir. Malo Gusto n'a pas eu l'occasion de montrer qu'il pouvait lui être supérieur.
Alors qu'on avait cru comprendre qu'il n'était pas loin,
il n'a pas vraiment eu l'occasion de le montrer, encore une fois. Et puis il y a toujours la solution Zaïre Emery qui, à chaque fois qu'il joue arrière-droit à Paris, est très très fort. Mais on ne voit pas Deschamps prendre un plan C pour remplacer ces deux latéraux. Ça me paraît peu probable, sauf évidemment en cas de blessure, mais là je le pense pas. Puis Zaïre Emery a pas joué du tout depuis le début du tournoi.
Donc, ils sont trois, hein, à avoir
voilà,
joué
donc il ne le mettra pas, il ne le mettra pas à droite et il gardera Jules Koundé jusqu'à ce que voilà, on espère que ça n'arrivera pas, qu'il passe véritablement au travers, mais il va rester pour l'instant en place.
Justement, quelques minutes, si on s'avance un petit peu et on se projette sur la suite de la compétition. France-Suède en 16e de finale, France-Allemagne en 8e, les quarts de finale, si au grand jamais l'équipe de France va au bout.
Maroc ou Pays-Bas.
Maroc, Pays-Bas qui tomberait contre le Canada en 8e. Maroc-Canada, on est d'accord ? Maroc ? Pays-Bas ?
Non, Pays-Bas. Je pense que le Maroc atteint un petit peu, je pense, ses limites. Et je vois bien les Pays-Bas avec le jeu qu'ils proposent. Bien que les clubs soient en grande difficulté aux Pays-Bas, l'équipe nationale nous a montré de belles choses depuis le début de la compétition. Et je vois bien les Pays-Bas jouer contre nous si d'aventure on arrive à accéder jusqu'au quart. Voilà.
Et en demi-finale, l'Espagne.
En demi-finale, ce sera l'Espagne. Et en finale, l'Argentine. Et on est champion du monde. Et voilà, on n'en parle plus.
Eh bien, j'espère que vous serez entendus. C'est l'heure. On va rester là-dessus. On va marquer une pause et revenir dans quelques instants pour voir toute l'actualité du rugby.
RRB, la pub.
Ce mois-ci, chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez d'un kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1190 francs seulement. Offre valable dans vos 4 magasins, Ansvata, Apogoti, Faubourg et Magenta, dans la limite des stocks disponibles. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Le 3 juillet, Wonder Beach, le Tribute Pink Floyd à le retour. 2h30 de concert, 10 musiciens sur scène pour vous faire revivre l'univers mythique des Pink Floyd. Des classiques incontournables, des solos légendaires, un voyage sonore hors du temps. Le tout dans un cadre exceptionnel, les pieds dans le sable. 2600 francs en pré-vente, 3000 francs sur place, billetterie en ligne sur ticket.nc. ou à Photo Discount, Computer System et Fix & Go du Coast, le centre. Ouverture des portes 18h, début du concert 19h30. Le Tribute Pink Floyd, le 3 juillet, au On The Beach.
Le Tout Info continue avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Kone. Radio Rythme Bleu.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, de retour sur le plateau d'une semaine sportmédable. Avec moi autour de la table, Bastien Antoine, Eric Figuer, Eric Savignac, Bruno Salvé. On a fait une petite partie de l'émission, grande partie de l'émission consacrée à la Coupe du Monde de football. On est revenu sur les matchs qui ont déjà été joués. Ceux qui se joueront demain, je les rappelle, hein, 3 rencontres, 4 heures Brésil-Japon. 7h30 Allemagne-Paraguay et midi Pays-Bas-Maroc, les 16e de finale donc de la Coupe du Monde. Revenons sur ce qui s'est passé ce week-end en rugby cette fois. Une finale de top 14, fort accent occitan, Toulouse-Montpellier. Toulouse annoncé comme favori, Toulouse champion, voilà, on s'y attendait, c'est fait, Bruno Salvé. Mais ce n'était pas la demi-finale contre le Racing.
Oui, ah bah non. En fait, c'était le premier de la phase régulière du championnat contre le second, puisque Toulouse a terminé premier et Montpellier deuxième. La meilleure attaque, Toulouse, contre la meilleure défense, Montpellier. Et on s'est rendu compte que, malgré une première mi-temps où on a vu le score à la mi-temps, on s'est dit
c'est fini,
le match est plié. On a vu Montpellier, puisque à la mi-temps, il y avait quand même 25 à 6. Et le match a terminé sur 28-20. Donc c'est vrai que les Toulousains ont été beaucoup plus pragmatiques parce qu'ils ont eu beaucoup moins de possession de balles. Ils ont beaucoup moins occupé le terrain montpelliérain, et ils ont réussi à marquer sur des actions.
Les Calédoniens ont brillé.
Carrément, bien sûr. Péato, deux essais. Antoine Dupont aussi qui met le sien, quoi. Donc c'était une équipe toulousaine qui a été quand même sérieusement contrariée, et les Montpellieriens méritaient vraiment de revenir au score et d'accrocher un peu plus cette équipe toulousaine qui est maintenant un quatrième titre d'affilée, qui bat tous les records au niveau de ses performances. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est
25e bouquet de Brésil.
25e. Mais 6e. Mis à part Montpellier, qui l'a fait une année, ils ont fait 6 boucliers.
Éric Savignac, c'est ce qui fait la différence sur ces finales-là. Toulouse, le grand Toulouse qui s'est transformé l'essai, justement, qui va au bout, alors que les Montpellierens, on les a vus un peu en difficulté pour aller mettre les points, marquer, perdre des ballons là où il ne fallait pas les perdre. C'est ce qui fait cette différence-là à la fin. Les 8 points d'écart, 28-20 pour Toulouse.
Comme disait Bruno, la logique, elle est respectée, parce qu'on a le premier du championnat et le second, le premier qui s'est qualifié de haute volée et depuis un petit moment déjà, après leur déception en Coupe d'Europe contre l'UBB. Et Montpellier qui a un petit peu plus bataillé, notamment qui a plus bataillé sur la demi-finale, alors que Toulouse est passé facile face au Racing. Et on a eu 3 fois dans la saison 1 cette problématique de mener de plus de 20 points à la mi-temps et de se faire remonter, notamment...
Alors, quand vous dites « on », on va préciser pour les auditeurs, vous avez le maillot, vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Chacun son équipe.
Et en fait, à Glasgow, ça a été un petit peu la même chose avec cette remontée des Écossais et puis justement le fait de ne pas jouer à domicile le quart de finale. Donc voilà, après, ils ont mis les bouchées doubles en première mi-temps. Ils sont pas sortis du vestiaire en deuxième. Même Hugo Mola l'a rappelé. On arrive à gagner même avec une seconde mi-temps de merde.
Ce sont ses mots à la fin du match, effectivement.
Voilà, et donc voilà, un grand champion, on va pas leur enlever. Enfin, deux grands champions. Là, on peut pas leur enlever des joueurs exceptionnels. Montpellier a vraiment été a été valeureux, avec peut-être une profondeur de banc un peu moins conséquente que. On a vu le talonneur australien qui se blesse dès le début. Mais après, voilà, et ils n'ont pas été aussi dominants en mêlée. qui l'ont été sur les autres matchs.
Et en touche aussi.
Et en touche, effectivement.
Et en touche, même si Varague a pris quelques ballons.
Ils ont bien contré quand même. Ils ont bien contré.
Ils se sont fait avoir une ou deux fois. Et
les Toulousains ont été beaucoup plus pragmatiques, notamment proches des lignes. Quoi. Le problème de Montpellier, c'est qu'ils ont eu à plusieurs occasions des mêlées décisives
à 5 mètres.
Oui, dans les zones de marque. Quoi. Et malheureusement
heureusement, tout dépend pour qui on
Ils n'ont pas pu concrétiser, donc ça a été difficile à ce niveau-là. Mais je pense que c'est l'expérience aussi des joueurs toulousains qui ont quand même une certaine expérience, que je pense des joueurs notamment devant, hein, parce que c'est vrai que le pack de Montpellier est monstrueux, quoi. Ils ont vraiment des gabarits, ils ont une première ligne très solide, deuxième ligne, une troisième ligne très très forte aussi, Béconnier, Nouchi, ce sont des joueurs vraiment qui...
Nouchi qui est jeune, qui paraît vieux, mais qui est très très jeune.
Et oui, capitaine de Montpellier. On a aussi Awas qui fait son retour à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis quelques années aussi.
Donc c'est vrai que c'était très très costaud devant, et puis ben, les avants du Stade Toulousain ont répondu à ce défi qui était annoncé, et puis avec leurs trois quarts, leur vélocité, ils ont réussi quand même et leur jeu de déplacement ont réussi à marquer de beaux essais. C'était quand même un match très accroché et une victoire méritée du Stade Toulousain sur l'ensemble de la saison.
On voit cette expérience par rapport aux pénalités, puisqu'il y a 13 pénalités contre Toulouse et 8 contre Montpellier. Et in fine, c'est Toulouse qui passe 3 pénalités.
Alors que Montpellier en passe que 2.
Donc en fait, ils ont toujours réalisé leur pénalité intelligente, on va dire, dans des zones où
ils sont allés chercher les points,
ils pouvaient pas l'enquiller, quoi. Mais je pense qu'il y a eu une gestion sur la deuxième mi-temps. Il y a peut-être un peu de décompression. Il y a eu aussi cet arrêt orage, etc. Mais dans l'ensemble, sur la première mi-temps, ils ont maîtrisé.
Mais alors justement, est-ce que quand on rentre au vestiaire avec autant d'avance, certaines équipes peuvent douter, peuvent se mettre à douter, peuvent trembler en disant voilà, l'autre équipe va revenir, Montpellier va revenir fort, comment est-ce qu'ils vont jouer? Là, les Toulousains, on le laissait peut-être un peu faire.
C'est ce qui s'est passé 3 fois dans la saison. Et ça, après, je pense que Mola et son staff vont revenir là-dessus, parce qu'ils embrayent déjà sur l'année prochaine.
Forcément.
Et ils vont quand même l'analyser, parce que 3 fois dans la saison, mener de plus de 20 points et se faire remonter en deuxième mi-temps, il y a un petit relâchement quand même. Après, moi, celui qui m'a impressionné, c'est Willis, quoi. Ce troisième ligne du Stade Toulousain est incroyable.
Qui était lui au chômage
l'an dernier. Ils ont vraiment du nez, parce qu'ils récupèrent ce gars, la mayonnaise prend, et il est vraiment extraordinaire. Il a fait un match, il a tenu la baraque, quoi. C'est
capitaine de l'équipe.
Ah ouais, vraiment.
Capitaine de combat, capitaine de quoi, exemplaire. C'est vrai que dans une équipe, il y a des leaders, on identifie un certain nombre de leaders. Il y a le leader en touche, il y a le leader de combat, il y a le leader de la défense. Et lui, c'est le leader absolu.
Il a pris le lead même à Dupont. Bon, Dupont était un petit peu en demi-teinte cette année. Il revient un petit peu. Là, sur la fin de saison, on va voir, notamment peut-être face à l'Australie ou face au Japon.
La Nations League, il a été...
Il ne jouera pas contre la Nouvelle-Zélande. Ils partent demain soir.
C'est ça.
Les quelques joueurs. Willis a vraiment été impressionnant. On verra son frère qui signe à l'UBB, je crois, l'an prochain. Oui. Est-ce que ce sera la même mayonnaise ou pas? En tout cas, c'est un joueur extraordinaire.
Alors, je me tourne vers les footballeurs qui suivent bien évidemment le rugby. Bastien Antoine, cette finale, on attendait les Toulousains champions. Qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots de cette finale face à Montpellier?
Ah ben moi, je l'ai suivi bien comme il faut, parce que je suis originaire de Toulouse, donc je me suis bien sûr levé à 6h du matin, dimanche. Une finale intéressante. Moi, j'ai dénoté quelques choses. Je trouvais que, pour avoir quand même beaucoup suivi Toulouse cette année, hein, j'ai regardé quand même quasiment tous les matchs du Stade Toulousain. Toulouse cette année, je l'ai trouvé quand même moins impressionnant derrière dans leur jeu de passe. Montpellier était reconnu pour ses qualités athlétiques, donc surtout devant. Et finalement, les 5 essais du match qui ont été marqués, ils ont été marqués sur des décalages. Ça n'a pas été des pénales touches ou des choses comme ça. Ça a été des exploits personnels ou des exploits ou des beaux essais. Ce qu'a fait Peato Mouvaka, c'est Lebel sur le second qui perce, et sur le troisième, c'est Kinghorn qui réussit à faire la différence. Donc ça a été sur du jeu. Et puis côté Montpellierain, c'est deux exploits personnels où on n'a pas l'impression qu'il va se passer grand chose, et tout d'un coup sur des appuis les joueurs ont fait la différence. Donc c'était quand même assez à dénoter que ça a été un énorme combat, ça c'est sûr. mais finalement c'est sur le jeu des arrières que ça s'est un petit peu joué. Enfin moi j'ai eu l'impression. Et après deuxième petite chose qui m'a un petit peu marqué, ben c'est que dès qu'il s'est mis à pleuvoir, j'ai l'impression que ça a vraiment quand même changé beaucoup le match. Bon, c'est sûr que moi je suis plus footeux à la base, hein, mais c'est vrai que ben, tout d'un coup on a l'impression que ça joue beaucoup moins, quoi, parce que le ballon fait que glisser, donc on peut pas trop jouer, donc tout le monde tape au pied. Et je commence à me poser la question si on ne devrait pas faire jouer ces matchs-là quand il y a des risques de pluie sur des stades fermés pour permettre que le jeu continue et que ça continue à jouer à la balle, parce que sinon j'ai l'impression que les équipes en reviennent surtout à essayer de défendre. Et...
ça va faire du monde à l'aréna parce qu'il n'y a qu'un stade fermé.
Oui, non, mais voilà.
Si on enlève le vent, oui. Comme je disais, l'arbitre, le vent, ça fait partie aussi du match, non? C'est
Lucien,
sûr que
Lucien
ça Mias ralentit.
Lucien Mias disait là, ouais, l'arbitre voilà. Fait partie du jeu comme le vent et la pluie. Donc,
mais le non, je, évidemment, les gros vont se déplacer beaucoup moins vite, mais les terrains, ils sont tellement de bonne qualité maintenant qu'on n'a plus à l'époque où Bruno, dès qu'il pleuvait, le ballon, il pesait.
En cuir, il faisait.
Il pesait 20 kilos.
Voilà.
Vraiment, il y avait du. Ouais.
Les ballons, maintenant, ils ont des grilles, quoi. Ils ont, ouais.
J'ai pas trouvé, justement, qu'il y avait trop d'en avant. Hein.
Il y a eu Donovan Tamfifenoua, à un moment, qui a fait un en avant sur
c'est du, des réceptions, mais sur les passes, tout ça, il n'y a pas eu trop d'en avant. Après, sur le l'essai de Colli, heureusement que Barassi, c'était la finale, parce que sinon, il aurait pris un coup de rap le match d'après. Il prend pas, on voit Cross qui prend, et il laisse la porte de Saloun.
Ouais, c'est voilà. Un Thomas qui se retrouve en face à face, non, derrière.
Ouais,
qui,
mais bon, il est un peu décalé, mais c'est Barassi qui fait pas son job, et là, bon.
Ben, en fait, Colli fait la même chose que Movaca. Movaca, il fait la fin de passe vers l'extérieur, et c'est le dernier défenseur, Taufifenoua, qui mord, et là, c'est la troisième ligne qui se fait prendre. Et voilà, donc
félicitations donc aux Toulousains, vainqueurs une nouvelle fois du top 14. C'est l'heure 17h42, déjà quelques minutes pour vos coups de cœur de fin d'émission. On va commencer à ma gauche, Eric Savignac, on commence avec vous, votre coup de cœur de la soirée.
Ben, félicitations à pas mal de sportifs calédoniens ce week-end. Ben, on a parlé sur le rugby avec deux à Montpellier, deux à Toulouse, mais également 11 jeunes nageurs, évidemment. Maxime n'est pas présent, mais on a 11 nageurs calédoniens qui participent au championnat de France élite. Et Dieu sait que pour s'y qualifier, c'est difficile. Voilà, donc bravo à ces sportifs calédoniens.
Félicitations. On suit bien évidemment les résultats avec quelques finales. Malheureusement, pas de victoire, mais de belles performances en métropole.
Oui.
Bruno Salvé.
Je suis obligé de parler de Peato Movaca et de Rodri Netti. Donc Peato qui a fait un match superbe avec deux essais, Rodri qui est rentré le premier sur le terrain et qui honorait son deuxième match, 200e match comme titulaire au niveau du Stade Toulousain. Donc deux jeunes formés à Dumbéa, deux jeunes calédoniens qui poursuivent leur brillante carrière, et Peato qui rejoint en plus l'équipe de France pour la tournée
la Nations League, nouvelle compétition
qui va se jouer dès le week-end prochain.
Bastien Antoine,
moi qui m'intéresse au football local, je vais faire un coup de cœur. Ce week-end, c'était les 16e de finale de la Coupe de Calédonie, avec 22 équipes provinciales qui rentraient en lice avec les 10 équipes de l'élite. Ça a été des très bons matchs. Quelques surprises, surtout des très bons matchs. Ça fait plaisir de voir des équipes du Nord jouer contre des équipes du Sud, donc c'est vraiment très plaisant. Beaucoup de monde autour des terrains. Prochaine étape le 18 juillet avec les 8e de finale, et je pense que ça sera là aussi très sympa.
Et bien, on suivra ça avec intérêt. Figuère, pour terminer,
un coup de cœur et beaucoup d'encouragement pour deux petits golfeurs calédoniens de 10 et 11 ans, Tiffen Dagorn, pardon, de la Wengi, et Martin Rouverol de Tina, qui vont jouer le championnat de France dans quelques jours, au mois de juillet. Donc ils ont tous les deux les capacités de briller et de se montrer au plus haut niveau, donc on va les suivre avec beaucoup d'intérêt. Ces deux futurs très bons golfeurs, ils sont vraiment très très jeunes, mais déjà très aguerris.
Allez, vous nous tiendrez au courant des résultats de nos jeunes golfeurs. Donc merci beaucoup messieurs pour cette semaine formidable. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, place Info Soir avec Léana Colombo.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.